14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Vous vous rendez compte si je découvrais dans 30 ans qu'elle était en vie et qu'on n'a pas été assez, on n'a pas été si loin dans les recherches? La disparition, c'est la chose la plus effroyable qui arrive à une famille. Je ne sais même pas comment on arrive à continuer à vivre. On aimerait qu'elle nous envoie un signe.
Bonjour, qu'est-il arrivé à Tiphaine Véron? Depuis un peu plus de 3 ans, cette question taraude les proches de cette jeune femme de 36 ans, évaporée dans le décor bucolique de la montagne japonaise. C'était le 29 juillet 2018 et la silhouette de Tiphaine Véron s'effaçait comme par magie en pleine journée à la sortie d'un hôtel dans un coin fréquenté par les touristes du monde entier. Depuis cette date, la famille de la disparue, originaire de Poitiers, ne cesse de remuer ciel et terre pour que l'on retrouve sa trace, mobilisant les autorités françaises, mais se heurtant côté japonais à une enquête policière poussive, des blocages, des réticences, quelques découvertes, notamment de mystérieuses traces de sang dans la chambre d'hôtel. Mais à chaque fois, le silence est retombé au nom du secret. Pourquoi autant de mystères? Cette enquête a-t-elle encore une chance d'aboutir? Question que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Tiphaine Véron. Elle préparait ce voyage au Japon depuis 6 mois. Elle avait tout prévu dans les moindres détails, sauf l'impensable. À l'été 2018, elle va disparaître dans l'un des plus beaux paysages de l'archipel. Ce samedi 28 juillet 2018 à 16h30, Tiphaine Véron, vêtue d'un poncho imperméable bleu, d'un pantalon blanc à motif noir, les cheveux lâchés, pose sa grosse valise dans la chambre Mars en français, de l'hôtel Turtle Inn à Nikko. À 150 km de Tokyo, cette petite ville, posée dans une montagne où abondent temples et sanctuaires, est un haut lieu de pèlerinage. Les touristes s'y précipitent. Pas moins de 12 millions de personnes transitent ici chaque année sur les bords de la capricieuse rivière Daya. Tiphaine a débarqué la veille au soir à l'aéroport de Tokyo Narita en provenance de Roissy. Samedi matin, elle a pris le train jusqu'à la vieille gare de Nikko. Lors d'un changement, la vidéosurveillance la montre seule dans la même tenue que celle qu'elle porte lors de son arrivée à l'hôtel. L'assistante de vie scolaire de Poitiers voyage en solo. Elle était venue une première fois au Japon 5 ans auparavant et rêvait d'y retourner. Elle touche au but avec ce séjour qui doit durer 3 semaines, tellement enthousiaste qu'elle rejoint à pied son hôtel à 2 kilomètres de la gare en tirant sa lourde valise. Comme toujours, elle s'empresse d'envoyer un message sur le groupe WhatsApp de sa famille pour donner ses premières impressions. Elle est ravie. 2 heures plus tard, elle se restaure dans une épicerie de quartier. Elle discute avec un couple de touristes français, les Hardy. Ils lui conseillent de visiter les temples de Kamangafushi Abyss. Les Hardy décriront la touriste comme agréable et pas stressée. Dimanche 29 juillet, alors que la pluie n'a cessé de tomber une bonne partie de la nuit, Tiphaine Véron se réveille vers 7h du matin, heure attestée par les relevés de téléphonie. À 8h30, elle se retrouve en débardeur blanc dans la salle de petit déjeuner du Turtle Inn. Il y a là 2 hommes français qui visitent aussi la région, ainsi qu'un couple d'Allemands. Elle échange quelques mots avec les uns et les autres, précise qu'elle a l'intention d'aller visiter les temples et les abords du lac Shuzenshi. Aucun signe d'inquiétude chez la jeune femme. Dans ses dépositions, le patron de l'hôtel affirme l'avoir vu partir en randonnée autour de 10 heures. Il est formel, mais les données téléphoniques ne donnent pas le même horaire. Tiphaine a profité du Wi-Fi de l'hôtel jusqu'à 11h40. Elle a consulté sa messagerie et a même envoyé un mail à sa banque en France. Après 11h40, et alors que la touriste avait programmé une randonnée à pied jusqu'au temple, le téléphone va demeurer désespérément muet, plus aucune activité, comme si l'appareil avait été éteint ou qu'il ne fonctionnait plus. Au soir du dimanche 29 juillet, l'hôtelier constate que la cliente française n'est pas rentrée. La clé de la chambre marche est toujours accrochée au tableau. Elle y est encore le lundi matin. L'hôtelier prévient alors le commissariat de Nikko, mais les policiers sont loin d'être inquiets. Il est trop tôt pour lancer une enquête. De simples vérifications suffisent. Tiphaine Véron, 36 ans, a peut-être décidé d'aller passer la nuit ailleurs. En outre, il est d'usage au Japon que les autorités ne s'alarment pas à la moindre disparition. Près de 100 000 personnes disparaîtraient chaque année dans l'archipel, la grande majorité étant des départs volontaires, une envie de changer de vie. Rien qui ne cadre avec la psychologie et le style de vie de Tiffen, ni avec le programme qu'elle s'était fixé. Elle avait réservé ses hôtels, noté dans un carnet tous les lieux à visiter, l'ambassade de France au Japon. Puis la famille sont alertées. Cette absence est inexplicable. Le 1er août 2018, la famille Véron est au commissariat de Poitiers pour signaler la disparition inquiétante de Tiffen. Bonjour Damien Véron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime avec nous pour revenir sur cette histoire qui effectivement vous taraude. La famille Véron, vous êtes évidemment le frère de Tiffen. On va parler de cette enquête, Damien Véron. Mais tout de suite, une première question que évidemment on s'est toujours posée, et ce depuis le début. Est-ce que votre sœur a eu à un moment donné envie ou non finalement de disparaître ?
Non. Non, d'ailleurs, en plus, Nico était la première étape de son voyage. Mmh. On voyait qu'elle avait vraiment profité de l'envie de profiter. C'était un voyage de 15 jours. Si vous voulez, vous disparaissez pas au bout de votre première étape. Surtout que, et vous l'avez bien dit, l'objectif, c'était qu'elle puisse partager son voyage avec nous.
Tout à fait.
Donc, c'est peu probable. D'ailleurs, les deux polices l'ont écarté tout de suite.
Exactement.
Aussi,
hein. Mais il faut toujours le répéter parce qu'effectivement, on peut avoir une attitude un peu comme ça, peut-être pas désinvolte, mais en tout cas, dans l'imprévu, beaucoup de choses peuvent se passer. Une deuxième question, c'est votre sœur, je ne l'ai pas dit dans le récit, mais votre sœur est épileptique, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Elle était stabilisée depuis 2 ans, ce qui lui a permis aussi d'envisager de faire un voyage.
Et elle suit à ce moment-là un traitement. Et la police japonaise va d'ailleurs vous poser des questions là-dessus. Hein.
Oui, ils nous ont posé des questions. Alors nous, bon, c'est un peu le problème aussi culturellement, c'est que nous, tout de suite, on avait appelé le neurologue de Tiffen, qui l'a suivi depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas pris son récit. Ils ont voulu refaire des enquêtes eux-mêmes pour comprendre. Bon. En tout cas, on en a discuté d'ailleurs avec Jean-François Abgral, si vous voulez, le fait qu'elle soit épileptique finalement ne change pas grand-chose au fait que ça puisse être un accident ou pas.
Voilà, c'est bien de le signaler, en tout cas pour qu'on se mette bien dans la peau de ce qui a pu, dans la condition de ce qui a pu se passer. Alors il y a un premier point troublant dans cette affaire, en tout cas moi qui m'interpelle, c'est le témoignage de l'hôtelier. C'est ce timing. Lui, il dit... Je l'ai vu partir de l'hôtel à 10h. La téléphonie, elle ne donne pas tout à fait le même horaire, elle donne 11h40. Qu'est-ce qu'il raconte exactement cet hôtelier ? Parce que lui, c'est le dernier, la dernière personne à l'avoir vu vivante, votre sœur.
Mais vous avez raison, tout à fait. On peut imaginer qu'en France, les recherches, ou en tout cas les investigations, seraient parties de ça, justement, de l'hôtelier. Alors nous, effectivement, on a pu avoir, puisque Tiffen, pour avoir l'esprit plus tranquille pour voyager, avait laissé tous ses codes de boîte mail à notre mère. Donc nous, on a pu, justement, par l'application Google, parce qu'en fait, c'est l'application Google qui indique, par le Wi-Fi, qu'elle est jusqu'à l'hôtel, à l'hôtel jusqu'à 11h40. Ouais. Mais effectivement, vous avez raison, il y a une contradiction. D'ailleurs, il dit qu'elle part même avant 10h.
Oui, c'est ça. Alors, mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Parce que ça, c'est très important, parce que c'est le début de l'affaire et de l'enquête. C'est les premiers pas de Tiffen, où on croit qu'il est à l'extérieur. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est bien partie en randonnée déjà, Tiffen, votre sœur ?
Non, vous avez raison. L'interprétation... En fait, on voit que le Wi-Fi se coupe probablement à 11h40, mais rien n'indique qu'elle est sortie de l'hôtel.
Ça, c'est
donc
très,
vous avez raison.
Et c'est très important parce que là, il y a une zone d'ombre qui a été évacuée tout de suite par la police japonaise. Hein. C'est pas leur faire grief de ce qui passe, mais ils prennent pour argent comptant ce que dit cet hôtelier. Lui, qu'est-ce qu'il raconte lui dans les procès-verbaux que vous avez pu lire cet hôtelier ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je l'ai vu. Je crois qu'il y a sa fille aussi qui voit votre sœur à ce moment-là.
Alors déjà, vous avez raison, procès-verbaux, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y en a jamais eu, si vous voulez, assez de procès-verbaux qui ont été rédigés de manière précise pour que d'ailleurs le juge d'instruction à Poitiers puisse bien comprendre. Mais déjà, vous avez raison, il y a des contradictions. Parce qu'il dit au début qu'elle part à 10h30, en fait, il explique qu'il a eu un appel à ce moment-là, donc en fait, c'est plutôt 9h50, lorsqu'il a vu Tiffen partir. Mais vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut aussi des investigations, qu'ils soient interrogés, qu'on en sache plus. Oui, c'est un vrai, ça c'est vraiment un point d'interrogation.
Alors je ne m'acharne pas sur cet hôtelier, même si effectivement il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Est-ce qu'on sait un petit peu qui il est cet homme? Il est bien implanté sur place, etc. Il y a eu une petite enquête quand même qui a été ouverte là-bas sur ce patron d'hôtel.
On a essayé de prendre un maximum d'informations en attendant d'avoir des vrais experts qui nous relaient. D'ailleurs, ça va être le cas avec...
On va en parler un peu plus tard. Ouais,
tout à fait. Nous, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. De sauver des informations, mais c'est très compliqué, surtout nous qui sommes pas japonais, même avec des interprètes, d'essayer, si vous voulez, de faire une enquête sur l'hôtelier. Ouais. Mais vous avez raison, il a l'air d'être implanté depuis longtemps, il a réussi professionnellement puisqu'il a deux hôtels, son habitation qui est pas loin de l'hôtel, d'ailleurs, qui aurait pu être là aussi fouillé ou vérifié, n'a pas été fait. Donc, effectivement, il y a plein de... Nous, on n'a pas pu faire grand-chose.
Bien sûr, la distance est très importante dans les enquêtes. Vous êtes à des milliers de kilomètres du Japon. Donc, c'est très compliqué d'avoir une enquête comme ça à distance. Et puis ensuite, vous le faites bien de le signaler, c'est que vous ne parlez pas japonais. C'est très compliqué, la communication. Il faut quand même le répéter. C'est un des poids qui pèse sur cette enquête. Vous y êtes allé à plusieurs reprises, Damien Véron, à Nikkō. Décrivez-nous un petit peu cette région de temples. C'est une région, on ne se rend pas très bien compte, c'est une petite ville, mais c'est une région escarpée avec des chemins, une rivière, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est très particulier parce qu'en fait, autour de Nikkō, donc vous êtes entouré de forêts, mais ce n'est pas une. Vous n'avez pas de précipice, c'est plutôt de la montagne assez douce. Et surtout, alors il a fallu du temps. Comme vous l'avez dit, moi j'y étais 5 fois, j'ai fait beaucoup de recherches moi-même. Donc avec le temps, j'ai appris à bien comprendre. Comment fonctionnait la nature autour de Nikkō. Et en fait, autour de l'hôtel, vous avez des forêts, mais vous pouvez pas vraiment aller loin. Vous êtes très limité. Y a pas de risque, mais c'est juste que vous pouvez pas franchir des espèces de, en fait, des montagnes qui sont assez glissantes. Donc vous pouvez pas monter.
Qui plus est, je le disais, c'est une région qui est parcourue, sillonnée par de nombreux touristes, avec des chemins qui sont parfaitement balisés. On va toujours au même endroit, finalement. C'est toujours les mêmes temples, etc.
Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites, vous avez raison, et ça on a mis du temps à l'observer, c'est que vous avez énormément de touristes, mais juste à des endroits précis. C'est-à-dire qu'ils sont tous accumulés au même endroit, mais lorsque vous commencez à partir un petit peu, même pas forcément très loin, mais un petit peu autour de Nikkō, vous êtes complètement seul. Et vous avez des routes où vous vous retrouvez seul, et parfois vous dites... dis donc, vraiment, vous pouvez vite être isolé et facilement vulnérable.
À ce point-là, donc il y a effectivement des recoins, etc., où on peut se perdre, ou en tout cas, peut-être faire une mauvaise rencontre. On ne sait jamais. Encore une question, Damien Véron. Vous avez été accueilli comment là-bas, la famille? Comme des empêcheurs de tourner en rond, ou bien alors vous étiez accueilli à bras ouverts?
C'est particulier parce que. Ils nous ont reçus. Lorsqu'on est arrivé, nous n'avions pas encore rencontré l'ambassade, donc on est arrivé, la police nous a reçus. Donc ils ont pris... ils étaient très concernés par la disparition de Tiffen, mais en même temps, ça a été tout le paradoxe, ça a été le problème de ce choc culturel, c'est que pour autant, tout de suite, il n'y a pas eu de recherche lancée.
Ouais, c'est ça.
En plus, même si on l'a démontré par des éléments factuels, Tiffen aurait très bien pu être tombé quelque part et nous attendre désespérément... qu'on puisse venir la secourir. Donc en fait, c'était paradoxal. C'est qu'ils nous ont reçus, mais en même temps, il n'y avait plus rien. Donc il a fallu... ça a été notre travail pendant une année.
Et travail qui...
5 fois, c'est de les motiver à avancer.
Bien sûr, et travail qui continue encore aujourd'hui. Accident, enlèvement, meurtre, la famille de Tiffen ne peut s'empêcher de penser au pire. Elle va se rendre au Japon pour inciter les autorités à lancer une enquête digne de ce nom. Les investigations en cours se révélant pour le moins timides. Dès le lundi 30 juillet 2018, lendemain de la disparition de Tiffen Véron, les policiers du commissariat de Nikkō procèdent aux premières constatations. Ils se rendent ainsi à l'hôtel Turtle Inn et se font ouvrir la chambre marche, celle où la Française a passé la nuit. Aucun désordre n'est constaté, les affaires de la touriste sont en place, sa grosse valise à roulettes est là. Son passeport est resté dans la chambre ainsi que des feuilles manuscrites, un carnet de route dans lequel Tiffen a consigné tous les lieux qu'elle souhaitait visiter. Rien ne laisse présager une soudaine dépression, l'envie de disparaître. Les policiers interrogent l'hôtelier et des riverains. Personne ne semble avoir vu ou avoir croisé la Française. Dans les jours qui suivent, le dossier est confié au commissariat central de Toshigi, le chef-lieu de la région. Des hommes sont envoyés aux endroits où la touriste aurait pu se rendre, le secteur des temples et les rives d'un lac. Des pêcheurs sont questionnés. La photocopie du passeport de la disparue leur est présentée sans résultat. Un drone est utilisé pour survoler certains secteurs, mais ces recherches ne donnent rien. Il faudra attendre 9 jours pour qu'un avis de recherche en bonne et due forme, avec photo de Tiphaine Véron, rédigé en japonais et en anglais, soit affiché un peu partout en ville. Le 3 août, les deux frères et la sœur de Tiphaine Véron arrivent à Nikko. Ils sont pour le moins désorientés. La famille s'aperçoit que la police locale est bien saisie du dossier, mais que pour autant aucune enquête n'est vraiment ouverte. Bien que la haute technologie soit omniprésente au Japon, les enquêteurs ne disposent dans le cas présent que de quelques images de vidéosurveillance, celles de la gare. Pour le reste, celles des quelques caméras locales n'ont pas été exploitées. Et les images qui pouvaient s'y trouver ont sans doute été automatiquement effacées. Sous la pression de la famille, les policiers réentendent les patrons de l'hôtel, les clients qui s'y trouvaient, ainsi que des témoins, auditions rapides et banales. Après quelques jours sur place, la famille est invitée à assister au travail de la police scientifique dans la chambre de Tiphaine. Sans doute, les autorités veulent-elles montrer leur bonne volonté. L'un des frères est ainsi présent lors de cette inspection où les policiers utilisent du luminol, substance chimique qui permet de révéler les plus infimes traces de sang. Contre toute attente, une projection de sang est détectée sur un mur. Mais aucune explication ne sera donnée à cette découverte qui étonne les enquêteurs eux-mêmes. Les policiers locaux, interrogés par le site d'information Les Jours, diront qu'ils ne peuvent pas révéler qu'il s'agit de traces de sang, confirmant toutefois la réaction au luminol. 7 août 2018, la mère de Tiphaine Véron, Anne Désert, s'adresse au président de la République, Emmanuel Macron. « Monsieur le Président, nous avons besoin de votre aide, l'enquête piétine. La police japonaise est peut-être piquée au vif et les recherches sur le terrain sont désormais plus intenses. Le 10 août, une grande battue, une soixantaine de policiers, une quinzaine de volontaires est organisée sur le site des Kamangu Kafushi Abyss, où devait se rendre la Française. Un témoin l'aurait aperçu sur place. Les rives de la rivière Daya sont explorées. Tiphaine aurait-elle chuté dans ce torrent et se serait-elle noyée? Aucune trace ici de la disparue. La famille ne va alors cesser de se mobiliser pour que les recherches continuent. Le 9 septembre, Sybille, sœur de Tiphaine, lance un appel aux touristes de Nikko pour savoir s'ils disposent de photos. Initiative que n'avait pas pris la police local. Et on vous retrouve, Damien Véron, vous êtes l'un des frères de Tiphaine. Alors on va parler un peu plus tard de la téléphonie et de cette fameuse géolocalisation qui est très importante dans ce dossier. Pour l'heure, vous assistez, je crois, à ces premières recherches. Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces, ces recherches sur le terrain, Damien Véron?
Non, parce qu'elles sont... Alors déjà, il a fallu, grâce à l'ambassadeur de France, hein, qui a mis beaucoup de pression... Laurent Pic, tout à fait, qui a eu un impact très important, puisqu'il a, c'est lui qui a organisé des réunions avec la police, justement, pour arriver enfin à ce que des battues soient faites, sauf qu'elle a eu lieu longtemps après, et qu'elle a été, en fait, elle a duré qu'une journée. Sur un endroit, en plus, l'un des plus touristiques de Nikko, puisqu'il s'agissait des Kamanga Fuchi Abyss, donc c'est l'endroit. Il aurait fallu, si vous voulez, que les recherches soient étendues, notamment dans la rivière, à ce moment-là, puisque c'est eux qui expliquaient que c'était la piste de l'accident dans la rivière qu'il fallait retenir. Donc oui, on s'attendait à plus.
Oui, mais pourquoi des recherches aussi restreintes? Est-ce que la police japonaise manque de bras ou vous avez le sentiment que finalement, on y va un petit peu contraint et forcé, quoi?
C'était ça, déjà, puisque nous, comme si vous voulez, si nous n'avions pas fait autant d'actions...
Oui, c'est vous qui poussez, passé, hein. C'est vous qui poussez à ces recherches, hein, il faut bien le dire. Oui. Vous êtes sur place et puis vous ne les lâchez pas,
Exactement,
les policiers.
Exactement, parce que la presse, les télévisions japonaises ont été très touchées. De la disparition de Tiphaine, donc c'est vrai qu'ils se sont beaucoup déplacés à Nikko, et si vous voulez, ça a mis la pression. Ouais. Sauf qu'on ne comprenait pas pourquoi ils en faisaient si peu, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, le phénomène des évaporés a aussi joué un rôle dans leur manière de fonctionner, puisque des recherches ne sont pas organisées habituellement, donc on voyait que c'était laborieux et qu'il n'y avait pas d'habitude justement à les organiser.
Ce que vous nous dites, c'est qu'au plus vite le dossier de la Française est refermé, au mieux ce sera.
Pour ce qui est des recherches, oui, ils comptent sur l'aide des pêcheurs, des forestiers, ils organisent pas les recherches. Donc sur cette partie de la piste accidentelle, oui. Surtout la piste accidentelle qu'on a pu nous-mêmes démonter, puisque expliquer que Tiphaine était tombée et qu'à cause du typhon et de la rivière, on ne la retrouvait pas. Sauf qu'en fait, il a plu la nuit, Mais le jour où Tiphaine a disparu, le niveau de la rivière était normal.
Alors, des enquêteurs qui traînent les pieds, on va en parler avec notre deuxième invité, Maître Antoine V. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur Richard.
Merci beaucoup d'être également en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes l'avocat de la famille de Tiphaine Véron et vous suivez ce dossier avec une grande attention. On a l'impression, Maître V, que dès le début, au Japon, on en parlait avec Damien Véron, que dès le début, on n'a pas vraiment envie d'enquêter sur cette disparition.
Alors, il y a deux possibilités à envisager. Pour expliquer pourquoi l'enquête au Japon n'a, selon nous, pas été fructueuse. La première possibilité, c'est que c'est difficile d'enquêter sur une disparition. Quand il n'y a pas de corps, le fait de réaliser des investigations sur une disparition dans tous les pays du monde et dans tous les contextes est souvent, pour les enquêteurs, quelque chose de difficile. Mais la deuxième hypothèse, c'est que la disparition n'a pas donné lieu à une enquête suffisamment tournée vers l'hypothèse criminelle. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir qui était que peut-être c'était dérangeant d'avoir à officialiser qu'un crime avait été commis contre quelqu'un qui n'était pas japonais. Bon, c'est des pistes et des hypothèses qui, évidemment, nourrissent toutes nos discussions et sur lesquelles il est difficile d'apporter une réponse claire.
Alors, Maître V, je vous suis. Évidemment, on comprend bien que les méthodes d'enquête au Japon, elles sont vraiment différentes qu'en France. Mais qu'est-ce qui aurait dû être fait en priorité? Et selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été fait?
D'abord, l'audition de témoins proches des faits. Il y avait des témoins qui étaient là le matin même dans l'hôtel que la victime a quitté et qui n'ont jamais été entendus. Ou alors des témoignages qui ont été recueillis, qui présentent de très grandes contradictions et il ne semble pas que la police ait rappelé les témoins pour les confronter, essayer d'aller plus loin. Voilà, ça c'est des méthodes basiques d'enquête. Les données téléphoniques sont des données qui aujourd'hui sont très importantes. Savoir pourquoi un téléphone s'éteint, comment il s'éteint, dans quel cadre, repérer toutes les données téléphoniques de la zone eût été quelque chose de possible qui n'a pas été fait.
Alors je l'ai dit dans le récit, on va trouver dans la chambre occupée par Tiphaine des traces de sang. D'ailleurs, il y a une grande trace de sang qui va apparaître sous l'effet du luminol, ce produit qui permet de détecter la moindre des gouttelettes. Est-ce que cet élément, Maître Antoine V, est-ce que cet élément dans la chambre est déterminant selon vous?
La difficulté vient du fait que l'analyse scientifique qui révèle ces taches de sang a une portée qui est potentiellement limitée, parce qu'évidemment, on ne parle pas d'une grande tache de sang qui serait attribuable directement à la victime ou à quelqu'un de son entourage. On parle de résidus dans la chambre. Oui, c'est un élément qui est important, mais comme beaucoup d'éléments, il n'est pas suffisamment clair en soi pour fournir une piste indépassable.
Damien Véron, en un mot, on a vraiment l'impression que c'est une enquête qui est, pour le moins, une enquête dans le désordre. Il y a des trous d'air partout.
Oui, il y a des. Maître Antoine Vell a parfaitement dit. Il faut, par exemple, que les personnes qui soient proches de l'hôtel soient interrogées, effectivement. Après, on a vu avec les Japonais, c'est qu'ils prennent la disparition de Tiphaine au sérieux. Ils ont essayé de faire des choses. Nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'il faudrait effectivement qu'ils poussent leurs investigations. Et pour ça, peut-être. Et c'est pour ça que l'appui du président de la République est important, c'est de les inciter à ouvrir une enquête.
Bien sûr.
Orientée sur la piste criminelle.
La famille est donc décidée à savoir ce qu'il est advenu de Tiphaine. Malgré les années qui s'écoulent, les proches vont reprendre les investigations à bras-le-corps. La thèse du meurtre de la mauvaise rencontre est privilégiée. Ce 28 juillet 2020, 2 ans pile après la disparition de Tiphaine, la police de Toshigi convoque les journalistes pour faire un point sur l'enquête. Il s'agit en fait d'une opération de communication destinée à montrer le sérieux du travail accompli. Distribution d'avis de recherche dans l'enceinte de la gare de Nikko, démonstration d'une équipe de plongeurs dans la rivière qui serpente autour de la petite ville, première et ultime étape du voyage au Japon de Tiphaine. De son côté, la famille continue à se poser bien des questions. La juge de Poitiers et les policiers du SRPJ ont tout le mal du monde à obtenir des informations de la justice et de la police japonaise. Grâce notamment à l'opérateur Free, les proches ont pu obtenir les relevés des appels de la jeune femme jusqu'au jour de sa disparition. Il apparaît ainsi que ce 29 juillet 2018, à 20h11 dans la soirée, donc, le téléphone de Tiphaine a émis un signal qui n'a jamais pu être éclairci ou réellement expliqué. Sur place, la police n'a en outre jamais communiqué les données GPS de l'appareil. Seul moyen de le localiser en temps et en heure, elle n'en aurait pas fait la demande auprès de l'opérateur local. Le 20 février 2019, une déclaration de présomption d'absence est déposée par la famille au tribunal d'instance de Poitiers. Procédure permettant d'accélérer le règlement de questions administratives. L'enquête, elle, ressemble à une course de longueur. Au mois de mars de la même année, certaines pièces de procédure sont enfin traduites. Au mois de mai, une équipe de policiers est enfin envoyée au Japon et dans la ville de Nikko pour récupérer des documents. Le commissaire de Poitiers, accompagné d'un officier du SRPJ, sont soumis à la procédure d'entraide judiciaire internationale. Ils sont donc réduits à un simple rôle d'observateur. Ils ne peuvent pas enquêter. Ils se font remettre les auditions des dernières personnes ayant vu Tiphaine vivante, notamment celle des clients et du patron de l'hôtel Turtle Inn. Maître Antoine V, vous êtes l'avocat de la famille de Tiphaine Véron et l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Les Japonais, depuis le début, ils semblent privilégier la thèse de l'accident. Vous, en France, c'est l'inverse. Vous l'écartez de plus en plus, cette thèse de l'accident, maître ?
Non, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui la piste accidentelle est définitivement exclue. Elle est une piste qui a les mêmes mérites en termes intellectuels que la piste criminelle. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le droit des victimes, c'est de pouvoir bénéficier d'investigations les plus complètes possibles pour accéder à la vérité, avec toujours l'espoir qu'on puisse comprendre véritablement ce qui s'est passé, même 2 ou 3 ans plus tard.
Oui, alors cet espoir, on a Damien Véron également en ligne, frère de Tiphaine Véron. Cet espoir, Damien Véron, évidemment, il ne vous a jamais quitté de savoir ce qui s'est passé. Je voudrais que vous nous parliez, Damien Véron, de ces fameuses données GPS. Ce n'est pas si technique que ça. En fait, ça permet de localiser un téléphone dès lors qu'il est même perdu, voire éteint. Ces données GPS, le Japon ne vous les a jamais communiquées.
Alors il y a 2 choses, vous avez raison sur le téléphone, c'est que les données GPS, nous on a pu y avoir accès, puisque nous avions les comptes de Tiphaine, donc on a pu accéder à ces comptes, donc ça on a pu les exploiter.
À ces derniers appels,
oui. Ça c'est vraiment l'application Google, ça marche avec Internet. Donc ce qu'on voit, c'est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'à 10h40, l'application est arrêtée, puisque probablement elle n'a plus de Wi-Fi. Ce qu'il y a autre chose, et ce qu'on demande, de manière générale, ça concerne le bornage. Et ça, c'est lié principalement aux opérateurs
locaux.
Free en France, locaux, donc SoftBank au Japon. Donc là, effectivement, on aimerait, si c'est encore possible, parce que beaucoup de temps s'est écoulé, savoir si les opérateurs ont des informations à communiquer.
Mais
ça, c'est important.
Mais est-ce que la police japonaise a fait cette demande? Parce que c'est une demande basique, ça. Dans toutes les enquêtes aujourd'hui, on fait le bornage des téléphones. C'est tellement élémentaire.
Oui. En France, on le fait tout de suite. Au Japon, ça n'a pas été fait. On peut l'imaginer. Alors, l'ambassadeur avait demandé une saisie des données du téléphone. On espère que ça a été fait. On ne sait pas. On va avoir aussi un élément de réponse, on espère, bientôt là-dessus. Mais vous avez raison. Alors, pourquoi? Est-ce que, comme étant donné que le statut d'enquête criminelle n'a peut-être pas été enclenché, ça n'a pas permis de réquisition? Mais après, effectivement, c'est un petit peu rageant. Parce que en France, vous pouvez vous dire que ce type de réquisition s'est fait dans l'immédiat. Oui.
La famille de Tiphaine Véron entend bien ne pas en rester là. Elle va continuer contre vents et marées à alerter les autorités, à solliciter les plus hautes personnalités. Elle va faire également appel à un enquêteur privé. Au début de l'année 2020, et alors que les investigations semblent condamnées au surplace, la famille de Tiphaine Véron et leur avocat Antoine V se rapprochent de l'enquêteur privé Jean-François Abgral. Cet ancien gendarme, qui exerce désormais de façon indépendante, est une figure bien connue de la criminologie et de la justice. C'est lui qui avait obtenu les confidences du tueur en série Francis Holmes. C'est encore lui qui avait fait progresser les recherches sur un autre meurtrier et violeur, le chauffeur de car Émile Louis. Abgral accepte le défi, à savoir une enquête à des milliers de kilomètres de la France. Même si les Japonais semblent pencher en faveur d'un accident, la thèse de la mauvaise rencontre par un habitué des lieux, voire même d'une séquestration, cette thèse est loin d'être écartée par l'enquêteur privé, tout comme par la police judiciaire de Poitiers. Il apparaît que cette région touristique, réputée tranquille et sûre, ne le serait pas autant que cela. Juste avant le temple de Takino, Un panonceau a longtemps alerté les touristes de rester sur leur garde. Un individu rôderait dans le secteur. Il importunerait les femmes, et notamment les femmes seules, après s'être présenté à elles en qualité de guide touristique. Il les inviterait à monter dans sa voiture pour une visite gratuite. Tiphaine Véron, qui a appris à déchiffrer le japonais sans pouvoir le parler couramment, avait-elle lu cet avertissement ? Le fait est que cet homme, propriétaire d'un véhicule rouge, est connu de la police. Il n'aurait toutefois pas été entendu dans ce dossier. Un site d'information locale, le Tokyo Reporter, rapporte des meurtres de femmes autour de Nikko, des crimes qui ne seraient toutefois pas liés entre eux. Bonjour Sandrine Watkan.
Bonjour Monsieur Richard.
Merci beaucoup vous aussi d'être dans l'heure du crime aujourd'hui, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes enquêtrice privée et psychocriminologue et vous travaillez sur cette affaire avec votre collègue Jean-François Abgral, missionné donc par la famille de Tiphaine pour essayer d'apporter votre expertise et peut-être de connaître la vérité. Pourquoi les Japonais ont autant de mal à enquêter sur les disparitions en général, j'ai envie de dire ?
Il y a très peu d'investigations au Japon dans ce domaine, puisqu'il existe dans la culture nippone finalement un droit à disparaître, à s'évaporer, ils appellent ça les évaporés, qui permet à des personnes de disparaître de la société, qui pousse finalement les autorités à pas forcément déployer tous les moyens nécessaires dans le cadre d'une disparition.
Ouais, ce qui explique effectivement sans doute cet immobilisme. Sandrine Watkin, au cours de votre enquête, qu'est-ce qui vous a interpellé ? Qu'est-ce que vous avez d'ores et déjà découvert ?
Les autorités nippones présentent Nikko comme une petite bourgade de campagne rurale particulièrement paisible. Et nous avons, au cours de nos premières investigations, nous avons mis en évidence quand même un climat criminologique assez particulier. Ce qui nous a particulièrement interpellé, c'est un panneau d'affichage à l'entrée d'un temple très touristique. Ce panneau indique en japonais qu'il faut prêter attention à de faux guides, des faux guides qui seraient tentés d'agresser sexuellement les touristes. C'est assez atypique hein, de quand même poster un panneau à l'entrée d'un temple de cette nature.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Je crois que vous avez découvert ce panonceau, mais vous avez découvert autre chose.
Nous avons également mis à jour qu'il y a eu des découvertes de corps non loin de là, notamment dans la rivière hein, qui longe vraiment la zone touristique où Tiphaine avait l'intention de se rendre. Découvertes de corps dans la rivière, découvertes de crânes sur la voie ferrée de Nikko, découvertes de corps également dans le lac non loin de là. Tout ça, en fait, finalement, pour une petite bourgade très paisible, ça commence à faire beaucoup.
C'est exactement ce que j'allais dire, ça commence effectivement à faire beaucoup. Vous avez aussi récolté, Sandrine Watkin, des témoignages de femmes. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces femmes ?
Elles se sont approchées de nous parce qu'elles ont vécu une expérience assez traumatisante au cours de laquelle elles ont été abordées par deux Japonais. Elles se sont senties à un moment donné bloquées, en danger. Heureusement, elles sont parvenues à prendre la fuite. Dans tous les cas, voilà, elles ont ressenti un grand danger, un grand malaise. Elles ont fait le lien potentiellement avec la disparition de Tiphaine.
Damien Véron, vous êtes également en ligne dans l'heure du crime. Frère de Tiphaine Véron, on entend ce que dit Sandrine Watkin, qui travaille, qui est missionnée pour conduire cette enquête côté français, avec toutes les difficultés que cela peut présenter. Elle évoque, c'est très frappant, ce climat criminogène. Vous avez senti cette espèce de chape de plomb sur cette région que vous connaissez bien et que vous avez visitée ?
Mais tout à fait, d'ailleurs très rapidement, puisque quand on est arrivé à Nikko, nous, on nous explique que c'est une piste accidentelle, que c'est un lieu paisible, et effectivement, très rapidement, des gens nous appellent de la communauté française à Tokyo en disant qu'il y a une personne démembrée qui avait été retrouvée dans la rivière, comme l'explique Sandrine, qu'une tête avait été retrouvée. Avec un interprète japonais, on est tombé aussi sur ces panneaux hein, qui indiquent qu'il y a un faux guide. Donc on s'est dit, mais en fait, c'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est incroyable, il y a quand même beaucoup de faits divers.
Oui, parce qu'on a le sentiment que c'est un coupe-gorge, excusez-moi, mais décrit comme ça, c'est un peu inquiétant quand même. Hein.
Oui, mais c'est ce que... D'ailleurs, votre question était bonne tout à l'heure sur la manière dont a été présenté Nikko. Mais en fait, il y a beaucoup de monde par endroit et d'autres, les petites allées où vous pouvez aller, où vous êtes vite seul.
Des autorités japonaises qui, malgré tout, sont très timides pour évoquer la piste criminelle, option à laquelle s'accrochent les proches de la disparue, toujours mobilisés en dépit des années écoulées. Le lundi 18 octobre 2021, un peu plus de 3 ans après la disparition, les proches de Tiffaine interpellent Emmanuel Macron qui ce jour-là se déplace à Poitiers pour y lancer les états généraux de la justice. Ce n'est pas la première fois que le président de la République est contacté par les proches de la disparue. Le 17 octobre 2018, Sybille Véron, sœur de Tiffaine, avait déjà attiré l'attention du chef de l'État dans la cour de l'Élysée lors de la visite du premier ministre d'alors Shinzo Abe. Intervention qui avait produit un réel effet. Emmanuel Macron avait relayé le message auprès de son hôte, lequel l'avait transmis à la police japonaise. On espère que l'État japonais va collaborer avec la justice française. On demande au président Macron qu'il ne lâche pas la pression sur le Japon, indique alors Damien Véron, l'un des frères de Tiffaine. La famille Véron entend bien retourner au Japon dans les mois qui viennent afin d'explorer toute une série de points restés en suspens. Des proches qui continuent à solliciter témoignages et renseignements, le moindre détail qui pourrait contribuer à faire jaillir la vérité autour de la disparition de Tiffaine. On vous retrouve, Sandrine Watkan, enquêtrice privée. Vous travaillez à la demande de la famille sur ce dossier avec, je le précise, Jean-François Abgral. Sandrine Watkan, la piste criminelle n'a pas été prise suffisamment en compte, selon vous ?
Oui, tout à fait. On estime aujourd'hui que finalement la piste criminelle n'a peut-être pas été suffisamment prise en compte, qu'il reste beaucoup d'actes d'investigation finalement à réaliser et que la piste accidentelle avancée par les autorités nippones, aujourd'hui, c'est un peu la solution de facilité à défaut d'éléments. Elle n'est pas impossible, mais on n'a pas non plus d'éléments qui nous tendent à favoriser plus cette hypothèse qu'une autre.
Oui, finalement. C'est l'hypothèse criminelle qui semble peut-être la plus solide, la plus structurée. Damien Véron, vous êtes le frère de Tiffaine Véron et vous êtes en ligne dans l'heure du crime depuis le début de cette émission. Sandrine Watkan parle de beaucoup d'actes qui restent à faire. Lesquels sont à faire, répétons-le, en priorité? Il faudrait faire quoi, là, tout de suite?
Là, d'abord, donc déjà, ce qui est très important, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a sollicité notre président une nouvelle fois lorsqu'il est venu à Poitiers, c'est une commission rogatoire internationale est arrivée au Japon. Donc dans cette demande d'acte, dans cette commission rogatoire, vous avez des choses qui sont demandées. Il y a le téléphone qui a été demandé à nouveau, on l'évoquait tout à l'heure. Il faut par exemple que l'hôtelier, les gens qui étaient dans l'hôtel ou autour de l'hôtel soient interrogés. Des suspects qui ont pu être ciblés. D'ailleurs, ça aussi, c'est un travail fait par Jean-François Abgral et Sandrine de voir aussi ce qui pouvait être fait. Donc première étape, ça va être la commission rogatoire internationale qu'ils y répondent. C'est très important. Donc c'est pour ça que c'est important d'ailleurs que Emmanuel Macron, enfin en tout cas l'Élysée nous a rappelé pour dire qu'ils étaient bien bien vigilants sur le dossier et qu'ils comptaient bien à ce que une enquête criminelle soit ouverte au Japon. On a l'appui de l'Élysée sur ce point.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Damien Véron.
Oui, c'est très important.
C'est un soutien important quand même. On sait que ça peut faire bouger les choses.
Mais vous avez raison, c'est un soutien très très important. Sauf que là, malheureusement, la première commission rogatoire, ça n'avait pas fonctionné. Donc on espère que, même si on sait qu'on a un soutien entier, on espère quand même que cette fois-ci, ça va aboutir.
Maître Antoine V, vous êtes également en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat, je le rappelle, de la famille de Tiffaine Véron. Les enquêteurs et la juge, est-ce qu'ils vont retourner au Japon ?
Nous appelons de notre vœu que la juge d'instruction puisse s'y déplacer avec la famille, avec des enquêteurs. Et c'est évidemment le sens de ce que nous préparons pour l'année 2022. Donc c'est des discussions complexes. Vous savez, l'énergie qu'on met dans un dossier, on peut pas le mettre ailleurs. Organiser un déplacement d'un magistrat instructeur au Japon est difficile. Mais nous espérons qu'il puisse encore avoir lieu. Et c'est une organisation que nous essayons de mettre en place depuis plus d'un an.
Alors voilà, ça prend évidemment beaucoup de temps. Encore un petit mot, Maître Antoine V. Est-ce que la collaboration avec le Japon s'est améliorée?
Oui, tout à fait. D'abord, il faut le dire, parce que si vous voulez, quand on demande à un pays de faire des investigations concernant le sort d'étrangers à son pays, il est plutôt normal de le demander gentiment et d'une certaine façon de travailler dans un esprit constructif. Donc les Japonais collaborent, on leur demande d'en faire un peu plus et de nous ouvrir encore un peu plus les portes de leur enquête et de leur système. Et c'est le sens de encore une fois, des actions qu'on espère conduire dans les toutes prochaines semaines.
Damien Véron, vous avez le mot de la fin, si je puis dire. Il faut continuer à se battre et à lancer des appels. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Vous demandez à tout le monde de se mobiliser, c'est ça?
Mais tout à fait, il faut, alors c'est important, Maître Antoine V a tout à fait raison, nous on a un soutien très important au Japon. D'ailleurs des gens, la France et le Japon sont vraiment deux pays qui s'apprécient particulièrement. Donc déjà ce qui est formidable c'est qu'il y a un vrai dialogue. Donc oui, l'objectif c'est qu'on, même si au Japon il y a une culture différente, effectivement qu'il y ait une enquête criminelle qui continue à faire leur maximum pour qu'enfin on puisse retrouver Tiffen et en tout cas... identifier tous les suspects et puis qu'on puisse la retrouver.
Et voilà, qu'on puisse la retrouver et que finalement cette enquête aboutisse. Et évidemment, à RTL, vous avez tout notre soutien, Damien Véron. Merci beaucoup, Damien Véron, Antoine V et Sandrine Watkan, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard et Boris Pirédu qui étaient à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.